Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi et trouver encore la lettre de Paul aux Philippiens et le chapitre 3, le troisième chapitre. Comme c'est notre coutume, nous voulons maintenant donner notre temps à creuser dans sa parole parce que c'est d'elle que vient notre autorité, pas d'une personne. Pas d'une église même, pas d'une organisation, mais de la parole de Dieu elle-même. Et dès que vous regardez le verset 1 de chapitre 3, vous voyez que ça parle du fait de se réjouir. Et face à cette question de se réjouir dans le Seigneur, Paul va aller directement dans ces versets qu'on va regarder ensemble, à la base, c'est-à-dire au fondement, de ce que cela signifie d'avoir une vie de joie dans le Seigneur. Et il commence avec ceci. Se réjouir dans le Seigneur commence avec cette question de la justification. C'est-à-dire, avez-vous le salut? Avez-vous le vrai salut? Se réjouir dans le Seigneur commence avec ce sur quoi vous vous appuyez pour avoir le salut. Et ce sont donc ces versets qui sont très cruciaux pour nous. Lisons ensemble la parole du Seigneur, c'est moi qui vais les lire. Je vous invite à les suivre. Philippiens chapitre 3 au premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Donc il dit, pour beaucoup d'entre vous, ce sera une répétition, mais acceptez-la avec joie comme salutaire. Et bien d'abord cet avertissement. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Après, une définition du chrétien, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et puis troisièmement, versets 4 à 7, une illustration ou un témoignage personnel. Verset 4, « Moi aussi cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage. » Moi, circoncis le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Les paroles du Seigneur. Tout d'abord, permettez-moi d'attirer votre attention sur la mise en garde contre ceux qui déforment l'Évangile. Et rappelez-vous tout au long de ce message que ceci a à faire avec votre joie dans le Seigneur. Si vous voulez garder votre joie dans le Seigneur, il faut vous mettre en garde contre ceux qui déforment l'Évangile. C'est le verset 2 qui suit ce commandement de se réjouir dans le Seigneur. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il dit, prenez garde aux chiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Un certain Ramon Davis, dans un livre qui est apparu en 1966, il raconte l'histoire d'un groupe de chrétiens de la tribu de Waleta, en Éthiopie, qui était en visite un jour chez un missionnaire, d'ailleurs je ne sais pas d'où, et lors de leur visite chez ce pasteur, un des enfants du missionnaire a bondi dans le salon, suivi par le petit chien de la famille. Et le petit chiot s'est approché des invités, tout doucement, même gentiment. Et les chrétiens qui étaient là, ils se sont reculés comme s'ils avaient très peur de ce petit chien. Et le missionnaire, un peu en riant, il leur rassure que vous n'avez rien à craindre, ce petit chien ne va pas vous faire du mal. Et puis l'un des Walata a répondu que ce n'était pas une question de peur en fait. Ils pensaient que les chrétiens ne devaient pas avoir des chiens dans la maison. Et ils prenaient l'avertissement de Paul, en Philippiens chapitre 3, verset 2, qu'ils avaient lu eux-mêmes, de prendre garde aux chiens comme la base scripturaire de leur croyance. Et donc, ils n'avaient pas de chiens. Et le pasteur a profité pour expliquer à ses croyants sincères que Paul n'avait pas de préjugés contre les canidés, mais au sens figuré, il décrivait un groupe de faux docteurs, de faux enseignants. Et je crois que ça serait utile pour nous de rappeler que même dans le grec, dont était écrit le Nouveau Testament, il y a un article défini avant le mot chien, c'est-à-dire il ne disait pas prenez garde à des chiens, mais prenez garde aux, dans le sens de aller, à ces chiens. Je crois que ce serait peut-être la meilleure traduction. Prenez garde à ces chiens, prenez garde à ces mauvais ouvriers, prenez garde à ces faux circoncis. Et Paul ne parle pas ici de trois groupes différents, il parle d'un seul groupe, mais il va utiliser trois termes très descriptifs pour les définir. Et là, je crois aussi un peu d'histoire serait utile. Vous le connaissez peut-être, mais ça peut nous aider à apprécier et à, plus tard à appliquer ce qu'il dit à nous aujourd'hui. Vous savez que tout le ministère de Jésus-Christ, et même jusqu'au chapitre 7 des Actes des Apôtres, la bonne nouvelle du royaume était annoncée presque exclusivement aux Juifs, aux enfants d'Abraham. Dans le chapitre 8 des Actes, c'est les Samaritains qui reçoivent l'Évangile, mais il faut arriver jusqu'au chapitre 11 pour que Dieu, par le truchement de l'apôtre Pierre, il va ouvrir le royaume aux païens, aux gentils, aux païens. Et ce qui est intéressant, c'est que même si Jésus l'avait rendu très clair, même au chapitre 1 de Actes, que cet évangile, cette bonne nouvelle devait être répandue depuis Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, l'inclusion des païens dans l'Église a été accueillie avec scepticisme. Pierre lui-même a eu du mal, vous vous souvenez. Et puis après qu'il a fait, il est sommé à Jérusalem, il se trouve un peu sur la sellette, comme on dit, pour avoir annoncé Christ aux païens. Donc cette idée d'un christianisme non-juif était un problème épineux depuis le début, et tout le monde n'était pas d'accord. En fait, je vous invite de trouver Actes chapitre 15 avec moi, pour que nous puissions voir cela. Ensemble, Actes chapitre 15, Paul à ce stade est déjà converti et il est devenu l'apôtre, on va dire, officiel, hein, envoyé de Dieu aux païens. Et il commence son ministère public à Antioche, dans la ville d'Antioche. C'est vraiment le premier endroit où il va évangéliser. Il y aura aussi des païens sauvés. Et il n'a pas fallu longtemps avant que, regardez le verset 1, acte 15, verset 1, « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Vous voyez, c'est quand même sérieux. La réponse de Paul et Barnabas, verset 2, c'est qu'ils eurent avec eux un débat et une vive discussion. Ça aurait été intéressant de pouvoir entendre la vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. La question, on peut le voir encore au verset 1, c'est est-ce qu'il faut être circoncis selon le rite de Moïse pour être sauvé? Donc c'est quand même une question fondamentale. Hein. Que faut-il faire pour être sauvé? Notez le verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, vous voyez ça, qui avaient cru. Donc ils se sont, on va dire, rangés des côtés des chrétiens. Donc c'est une pression qui vient de l'intérieur de l'Église. Ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur parmi ceux qui ont cru que Jésus est le Messie. Ils se levèrent et en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger, notez ces mots, fallait et exiger l'observation de la loi de Moïse. Alors notez maintenant la réponse de Pierre, verset 10, dans le même chapitre, acte 15, verset 10. Maintenant donc, c'est Pierre qui parle, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce. Vous voyez même le vocable qui change. Au lieu de il faut exiger. Maintenant on parle de la grâce du Seigneur que nous croyons être sauvés. De la même manière qu'eux. Bon, malheureusement, malgré le fait que les apôtres et les anciens ont parlé d'une seule voix sur cette affaire, et malgré le fait qu'ils ont même envoyé une lettre pour être distribuée dans les églises, l'erreur, comme toujours, ne meurt pas facilement. Et ça continuait. Et ces hommes ont poursuivi Paul avec acharnement. Ils enseignaient aux nouveaux convertis que Jésus, c'était bon, la foi, elle était bonne, mais pour être sûr et certain de son salut, il fallait être circoncis et il fallait garder la loi comme tous les autres juifs. Et donc le problème n'était pas qu'ils reniaient Christ, ils ne reniaient pas Christ, mais qu'ils ajoutaient à Christ. On pourrait dire plutôt qu'ils ajoutaient Christ à leur judaïsme, en fait. Et ils disaient donc que c'est Christ plus ces autres choses, plus les lois et les rites de l'Ancien Testament. C'est comme une dame catholique très sincère qui m'a dit une fois, c'était dans un tout petit village dans la région des Piémont en Italie, elle a dit, oui, vous avez Christ, mais nous, nous avons Christ plus Marie et les saints. Donc on ne peut pas faire que mieux, quoi. Et pour eux, c'était Christ plus ces cérémonies juives. Et Paul dit, méfiez-vous. Pour revenir à Philippiens, méfiez-vous, prenez garde à ces chiens. Il parle des judaïsants, parce que eux-mêmes, ils appelaient souvent les païens des chiens. Ça revient même dans une histoire de Jésus avec une dame païenne. Et ils appelaient des chiens parce qu'ils étaient en dehors du royaume. Et donc c'est un peu avec ironie que Paul se sert de leur propre vocable et il tourne contre eux et il les appelle ces chiens. Car en rejetant Christ comme le seul chemin du salut, ils étaient eux-mêmes exclus de la nouvelle alliance. Dans le dernier chapitre de la Bible, nous trouvons ces mots. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Vous voyez, eux, ils sont dedans. Et ils sont heureux. Mais dehors sont les chiens. Vous voyez le contraste entre ceux qui entrent par les portes, les robes lavées, et les chiens qui sont exclus. Ils sont dehors. Donc, imaginez les fondations d'une maison. Vous allez construire une maison, et les fondations sont bien construites et solides, et puis le propriétaire, il arrive, il voit que tout a été très bien fait, mais il se dit, mais avant de construire les murs, je vais ajouter avec ce que j'ai dans ma boîte à outils pour rendre encore plus sûres et plus certaines ces fondations. Et donc, il va clouer un morceau de bois ici, Il va trouver un bout de fer, il va le mettre là-bas. Il va peut-être trouver des vieux amortisseurs qu'il a trouvés dans sa vieille voiture, il va les mettre de l'autre côté. Il les met un peu partout sur les fondations qui ont été déjà construites. Et il dit, d'accord, maintenant sur ça, construisez les murs. Et on dit que c'est stupide. On sait que plus n'est pas toujours mieux, n'est-ce pas? Plus ne rime pas forcément avec mieux. Et Christ est la fondation. Mais si on dit, bon, je veux ajouter à la fondation, avant de mettre ma foi sur la stabilité de cet édifice, je veux quand même ajouter ce que j'ai dans ma boîte à outils, ce que je peux faire pour que ça soit plus sûr, plus certain. Et non, c'est aussi idiot. Et ça rend aussi instable les murs de l'édifice. Parce que dès que vous ajoutez à la fondation qui est Christ, tout ce que vous construisez dessus va après s'écrouler. en essayant de sécuriser leur position de fils dans la maison de Dieu. Ils se sont retrouvés comme des chiens qui sont bannis dehors. Et donc je crois que cette appellation « chien » parle de leur caractère d'imposteur, de fou, de banni. Mais il est aussi possible que la Bible les appelle ces chiens, non seulement en raison de leur position, c'est-à-dire et leur caractère en dehors du royaume de Dieu, mais aussi à cause de leur pratique, hein, leur coutume de harceler, de traquer l'apôtre pour apporter la destruction. Si vous n'avez jamais été en train de courir ou à vélo et vous avez un chien qui vient derrière vous, hein, c'est très ennuyeux, hein, pour dire le moins. Et c'est ce qu'ils ont fait pour l'apôtre Paul. Ils étaient toujours derrière, en train de harceler et essayer de détruire ce qu'ils faisaient. Et puis ces deux autres termes sont aussi des jeux de mots avec des idées juives. Il les appelle des mauvais ouvriers. Il dit « Prenez garde à ces mauvais ouvriers ». Vous voyez ça dans le texte? Ces juifs considéraient le salut comme le résultat de bonnes œuvres, mais croyant faire le bien, c'était le mal qu'il faisait. Et puis notez la fin du verset 2, il appelle les faux circoncis. Hein, il dit, prenez garde à ces faux mutilateurs, j'ai dit. En fait, c'est un mot qui veut dire la mutilation, hein, ou le fait de hacher, en fait. Vous pouvez peut-être mettre dans la marge de votre Bible, si vous avez de la place, le mot mutilation. Et je dis que c'est un jeu de mots parce que le mot grec pour circoncision est péritomé, et le mot que Paul emploie ici est katétomé. Donc c'est ça rime l'un avec l'autre, il fait un jeu de mots parce que il voulait être connu comme ceux de la péritomé, ceux de la circoncision, et Paul dit non, vous êtes de la partie des katétomés, la partie des mutilateurs, de ceux qui vont mutiler la chair. C'est un peu un jeu de mots pour pointer du doigt ceux qui, par la circoncision, ont traduit l'expérience dans une destruction spirituelle pour les païens. Et parce que vous avez fait la circoncision une exigence pour le salut, vous avez transformé ce qui était un signe donné par Dieu dans une mutilation spirituelle des païens. Vous avez fait du péritomé un catéchomé. Hein, vous avez fait une vraie cata, comme on aime dire en français. Et il le compare à ces coupures et ces mutilations que faisaient les païens dans leurs rites religieux. C'est quand même un langage assez choquant, non? C'est pas très poli et pas très gentil dans ce sens. Pourquoi un langage si dur, pensez-vous? Je crois que c'est simplement parce qu'ils étaient en train de mutiler, de détruire l'œuvre expiatoire de Christ. Vous savez que certaines choses méritent beaucoup d'émotion, méritent une forte réponse. Victor Hugo, il a payé cher sa résistance au règne de Napoléon III par un exil en dehors de la France pendant près de 20 ans. Et pourtant, il n'a pas mâché ses mots en parlant de cet homme. Il a condamné pour des raisons morales, le coup d'État et son auteur, Napoléon III, dans un petit pamphlet publié en 1852 qui était appelé « Napoléon le Petit ». Hein. Même le titre nous donne un peu son idée de cet homme. Et il dit, je cite hein, Victor Hugo, il dit « Ah, qu'un autre cherche des mots modérés. Oui, je suis net et dur, je suis sans pitié pour cet impitoyable et je m'en fais gloire. Hein, » Qu'un autre cherche des mots modérés. Non, moi je m'en fais une gloire du fait que je suis sans pitié pour cet homme. Il le mérite. Et je pense que c'est exactement le même sentiment qu'avait Paul par rapport à ces hommes qui affirmaient que la mort de Christ était nécessaire, mais qui niaient qu'elle était suffisante. Il dit, ah, qu'un autre utilise des mots modérés, moi je vais les appeler ce qu'ils sont. Ils sont des chiens, des mauvais ouvriers, des mutilateurs de la chair. Et méfiez-vous, prenez garde, il le dit trois fois, de toute personne qui chercherait à ajouter quelque chose à l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, quelle application pour aujourd'hui? Je n'ai pas peur que quelqu'un va rendre visite à notre assemblée en disant « Bonjour, je m'appelle un tel et je suis judaïseur. Hein. Mais qui êtes-vous » Je ne crois pas qu'on aura une visite d'un tel homme. Je ne crains pas que quelqu'un d'entre nous puisse être leurré par l'idée que la circoncision est spirituellement profitable. Je crois que cette idée a été bien vaincue dans l'histoire même de l'Église. Mais vous savez, il y a une pléthore, il y a une profusion de choix qui vous est offerte à sa place. Même en provenance de Rome, nous entendons récemment un accent sur Christ, ou la centralité de Christ, et d'un côté, on ne peut que se réjouir quand on parle de Jésus-Christ. Mais il faut se dire quand même, méfiez-vous, prenez garde, ne soyez pas séduit par la sincérité que je ne mets pas en doute, ni par de belles paroles, ni par des paroles bibliques parfois, mais examinez pour vous-même si l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ est présentée dans toute sa simplicité, sa suffisance, ou si on a ajouté quand même à la fondation qui est Jésus-Christ. Avec des édifices humains. Donc il y a tout d'abord cette mise en garde contre ceux qui déforment l'Évangile. Et nous aussi, nous devons rester quand même éveillés, nous devons guetter l'horizon, comme on a parlé la dernière fois. Nous devons voir qu'est-ce que vraiment ils enseignent, soit en parole, soit en pratique. Que Christ est suffisant, ou qu'il faut faire quand même ajouter à ce que Christ a fait. Mais au verset 3, nous trouvons la description d'un vrai chrétien. Ici, vous trouverez l'une des descriptions les plus belles, les plus succinctes de ce qu'est un vrai chrétien. Alors, est-ce que vous vous êtes jamais posé la question, si vous étiez ou si vous êtes vraiment un véritable chrétien? Je vous invite à vous mesurer face à ces trois critères. Verset 3, Philippiens 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. D'abord, je veux juste attirer votre attention au fait qu'il dit « nous ». Hein? Nous, les vrais croyants, nous sommes les circoncis. Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Je pense que c'est évident qu'il ne parle pas de quelque chose qu'il fait au corps physiquement, mais quelque chose fait au cœur. Dans ce contexte, c'est très clair, comme dans Romains chapitre 2, verset 29, « Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. » La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc il parle de la circoncision qui est celle du cœur. C'est une chirurgie interne et non pas externe. Et d'ailleurs, ceci devient très clair par le moyen qui va décrire ce vrai croyant, juste après dans le verset 3. Et il le fait en trois points. Et les trois parties de cette description sont reliées par un seul article en grec qui veut dire qu'il parle de la même chose. Il va parler d'une seule chose, mais en trois parties. Et notez aussi que Paul va s'identifier avec eux aussi. Il dit « nous sommes ». Et en affirmant que les vrais circoncis, c'est nous, il va s'associer aux païens et aux juifs qui s'appuient sur Christ plutôt que sur des rituels religieux. Mais qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à un vrai chrétien? D'abord, il dit les vrais croyants adorent Dieu par l'Esprit de Dieu. Vous voyez ça dans le verset 3? Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Le mot culte parle ici d'un hommage rendu à Dieu, donc de l'adoration. Leur culte, leur adoration est surnaturelle, car c'était généré par le Saint-Esprit de Dieu. L'œuvre de l'Esprit, on va dire, débordée de leur vie, dans le culte, dans l'adoration de Jésus-Christ. Voyez-vous l'opposition qu'il souligne entre d'un côté le culte extérieur, l'adoration extérieure, physique, avec beaucoup de rituels, la circoncision dans ce cas. Des fois célébrer même avec faste, nous voyons dans l'histoire. Et puis de l'autre côté, un culte sans signe extérieur en fait. Mais offert à Dieu par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, vous voyez ça? Et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, pas avec toutes ces autres choses qu'on peut ajouter, mais avec en vérité et en esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui seul peut inspirer un tel culte, une telle adoration. Donc nous devons reconnaître que nous sommes complètement dépendants de lui. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut susciter de nous-mêmes. Je ne peux pas le produire moi-même. L'homme, il peut construire des cathédrales, n'est-ce pas? L'homme peut inventer des cérémonies complexes et impressionnantes. L'homme peut fabriquer des habits sacerdotaux. L'homme peut, par la manipulation humaine, inspirer une crainte et un certain émerveillement. Il peut même, dans un culte, avec je sais pas, une parade, la musique, il peut inspirer quand même l'émerveillement. Ce sont des choses humaines, mais l'homme ne peut pas rendre à Dieu un culte raisonnable que par l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose de surnaturel. Et le mot culte ici en Philippiens, la trouo, ça implique beaucoup plus que le fait de chanter, de louer à haute voix. C'est un hommage rendu à Dieu et ça englobe toute la vie. Romains 12, 1 nous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, quoi? Un culte raisonnable. C'est le même mot, sauf que c'est un nom au lieu d'un verbe. Alors, quand il dit en Philippiens 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, il n'a pas en tête simplement le culte du dimanche matin. Hein, si on nous demandait, selon vous, qu'est-ce que c'est un culte raisonnable? Hein? Vous direz peut-être, je trouve qu'un culte raisonnable, c'est un culte qui ne commence pas trop tôt le matin, qui ne dure pas plus qu'une heure ou une heure et demie au maximum. Et Paul dit non, un culte raisonnable, c'est d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et un vrai chrétien, donc, n'est pas celui qui suit certaines traditions ou qui se plie à certaines exigences ou règles externes. Un vrai chrétien, c'est celui ou celle qui, avec son corps, oui, voire toute sa vie, il rend à Dieu un culte, il adore Dieu par l'Esprit, dans la force de l'Esprit et grâce à l'œuvre de l'Esprit dans sa vie. Si vous êtes véritablement chrétien, vrai circoncis dans le sens spirituel, on peut dire de vous, comme en Romains 5, 18, « Et vous n'avez point reçu un esprit de serviteur pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit ou l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père », c'est-à-dire nos prières à Dieu comme notre Père, suscitent de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. » Encore en Galates 4, 6, « C'est parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils par lequel vous criez Abba Père. » Quelqu'un peut dire, bon, moi je suis catholique, ou moi je suis réformé, ou moi je suis luthérien, ou moi je suis baptiste. Mais moi je vous dis que ces choses n'ont pas plus que valeur que de dire, moi je suis juif circoncis. Avez-vous l'Esprit de Dieu demeurant dans votre cœur et suscitant en vous l'adoration de votre Sauveur? Avez-vous jamais connu ce désir surnaturel de prier à Dieu, le Dieu de l'univers, en tant que votre Père céleste? Vous savez que tout le monde adore. Et beaucoup de monde offre à Dieu un culte, une adoration, mais dans la puissance de leur propre chair, un peu comme Caïn qui essaie d'offrir ses propres sacrifices en supposant que Dieu, bon, il allait les accepter, il allait se plaire avec ce qu'il donnait à Dieu. Mais un véritable chrétien adore Dieu par l'Esprit de Dieu. Regardez la deuxième chose. Notez le texte, Philippiens chapitre 3. Les vrais croyants se glorifient en Jésus-Christ. Vous voyez cela? Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils se vantent de Jésus-Christ. Éphésiens 2 dit que le salut n'est point par les œuvres afin que personne ne se croit. Personne ne se glorifie. C'est le même mot. Pourtant, Paul s'est souvent vanté, il s'est souvent glorifié. Mais qu'est-ce qu'il dit en Galates 6, 14 ? Loin de là la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il se glorifiait, mais il se glorifiait de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les vrais croyants, ils se vantent, ils vont donner toute la gloire pour leur salut à Jésus-Christ. Ils savent ce que c'est de l'appeler leur sauveur. J'ai un sauveur. C'est ça qui rend le vrai christianisme différent que toutes les autres religions. Parce que dans toutes les autres religions, dans un sens, je deviens mon sauveur. Et je suis mon sauveur. Mais pour le chrétien, il a un sauveur qui vient le chercher. Alors je vous demande d'être honnête avec vous-même et de vous poser cette question quand il s'agit de votre vie chrétienne. De quoi ou en qui vantez-vous? C'est intéressant parce que les gens sont généralement prêts à vous le dire. Hein? Quand vous dites, êtes-vous chrétien, et quelqu'un vous dit oui, ben il suffit de leur demander pourquoi. Pourquoi? Parce que je suis une personne morale, respectable. Hein? C'est un peu l'idée avec quelle honte de même suggérer que je puisse être autre chose. Ou parce que j'ai été baptisé, ou parce que j'ai fait de mon mieux pour vivre une bonne vie honorable, ou parce que j'ai assisté à l'église, ou parce que je crois dans certaines doctrines de la Bible, parce que quand j'avais un tel âge, j'ai prié une prière. Mais imaginez que vous êtes devant le trône de Dieu et il vous demande sur quelle base comptez-vous entrer au ciel. Alors que diriez-vous? Des fois c'est une bonne question de poser aux gens ça. Ça suscite en eux la réponse et la fondation de leur foi. Je me rappelle une fois, j'ai posé cette question à une dame en Suisse, très gentille, d'un certain âge. Et ce qui m'a surpris un peu, c'est qu'elle m'a répondu sans hésitation. Je lui ai demandé, sur quelle base diriez-vous à Dieu que vous devez rentrer au ciel? Elle a dit, bon, je lui dirai combien j'ai essayé de vivre une vie bonne et morale, je crois, quelque chose comme ça, une vie morale. Mais ce que dit l'apôtre, voici comment vous allez reconnaître un vrai chrétien. Quand il arrive devant le trône de Dieu, et même ici-bas, il ne va pas se vanter devant Dieu, il ne va pas se vanter devant les hommes d'aucune chose qu'il a faite. Il ne va se glorifier qu'en Jésus-Christ. C'est comme un chant que j'aime beaucoup. J'ai dit à ma famille, c'est ça que je veux sur mon tombeau quand je meurs. Cette phrase. Ma main tremblante ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Ça, c'est le témoignage du chrétien. Il n'a rien à offrir, en fait. Mais il se vante, il se glorifie de Jésus-Christ. Et puis le corollaire négatif de cette troisième description que Paul nous donne d'un vrai croyant. Nous avons vu que les vrais croyants, ils adorent Dieu par l'Esprit de Dieu, ils se glorifient en Jésus-Christ, et puis troisièmement, les vrais croyants ne mettent aucune confiance en la chair. Voyez-vous cela dans le verset 3? Regardez-le, hein, pour que vous voyez que ça vient de la Bible. Verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance, voilà, en la chair. La chair ici, c'est notre humanité pécheresse, déchue, maudite. Ils comprennent que c'est l'esprit qui vivifie, car la chair ne sert à rien, comme dit Jésus en Jean 6. Vous voyez, la personne qui envisage de dire un jour à Dieu, qui a ça un peu dans l'esprit, dans ses pensées, que s'il se trouve un jour devant Dieu, ben regardez ce que j'ai fait, Seigneur. Ou regardez ce que j'étais. Cette personne met sa confiance dans la chair. Et même la plus petite portion de confiance dans la chair, c'est trop. Parce que le chrétien, il nous dit ici, il ne met aucune confiance dans sa chair. Ces croyants peuvent dire avec Paul en Romains 7, « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature, c'est-à-dire dans ma chair, en fait, est le bon. Ce que je suis par nature. » Et donc les croyants ne mettent pas confiance dans ce qu'ils sont par nature. Mais tout de suite, quelqu'un va dire, mais que faire de toutes les bonnes œuvres? Bien, le vrai croyant, il reconnaît que tout ce qu'il a fait dans la chair ne vaut pas plus qu'un vêtement souillé, comme dit Ésaïe 64. Quelqu'un dit, bon, pour toi, Timothée, c'est clair, hein? Et moi, je vais même m'inclure dans cette liste. Nous, ensemble, nous, on ne peut pas faire confiance en la chair. Nous, on ne peut pas arriver au ciel par nos œuvres. Mais certainement, il doit y avoir quelqu'un qui puisse le faire. Il y a certainement des gens qui sont assez exemplaires, on va dire, dont la vie a été si immaculée, qui peuvent quand même avoir une certaine confiance dans la chair, dans ce qu'ils sont. Peut-être la mère Thérèse ou quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la mère Thérèse? Paul va nous donner la réponse à titre d'illustration personnelle. Regardez le verset 4. Il dit, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. » Vous voyez ça dans le verset 4? « Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Alors, rappelez-vous que ce n'est pas son opinion personnelle ici. Ceci, il est dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Paul nous est donné par la Bible, par Jésus, par Dieu, comme l'exemple de tous les temps de quelqu'un qui essaye d'obtenir le salut par ce qu'il fait et par ce qu'il est. Si quelqu'un pouvait le faire, c'est Paul. D'accord? C'est Paul. Et s'il ne peut pas le faire, eh bien, personne ne peut le faire. Regardez ce qu'il dit, la deuxième partie du verset 4. Hein. « Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. » Paul était un homme exceptionnel, sans pareil en fait, dans son exemple et dans ce qu'il était et ce qu'il a fait. Et donc, après avoir vu la mise en garde contre ceux qui déforment l'évangile et la description d'un vrai croyant, nous allons regarder dernièrement l'exemple personnel de Paul. Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Regardez le verset 5. Il dit, « Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, verset 6, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Alors, on lit ça et j'avoue que pour nous, au 21e siècle, c'est pas très impressionnant, n'est-ce pas? Mais je vous assure que pour le juif du 1er siècle, ces choses lui rendaient plus impressionnant que le pape pour un catholique fervent. C'est très impressionnant. Quand quelqu'un désire étaler leurs qualifications religieuses, ils vont souvent faire appel à ce qu'ils sont, soit à ce qu'ils sont, soit à ce qu'ils font. Et souvent, c'est une combinaison des deux. Par exemple, un juif, un musulman ou un hindou va être très attaché à leur identité raciale, ce qu'ils sont par naissance, en fait. Pour un juif, la question de religion,
race
est en grande partie une question de race. Hein. Je suis juif parce que je suis de la race juive. Dans l'hindouisme, le système de caste est basé sur la naissance. Donc, pour un hindou, être le fils de Brahman est d'une valeur inestimable. Hein, plutôt que d'être né comme un intouchable, comme ils disent. Ce qu'ils sont, voilà, par leur naissance, par leur famille, par leur race. Pour d'autres religions, c'est moins une question de race, c'est-à-dire ce que nous sommes par naissance, et c'est plus une question d'accomplissement personnel, ce que nous faisons. Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je fais mes prières? Les bouddhistes, par exemple, ont les 5 préceptes que chaque bouddhiste doit suivre. Mais pour toutes ces religions, et même les religions que je viens de mentionner, la plus grande gloire vient dans une combinaison de ces deux choses. Je suis quelque chose, et en plus de cela, je fais quelque chose. Et Paul était une réussite dans ces deux domaines. C'est pour ça que je vous dis que Paul est l'exemple donné dans la Bible pour tout temps de celui qui a pu, si on peut le faire, acquérir le salut par ce qu'on est et ce qu'on fait. Si quelqu'un pouvait le faire, c'est lui. Et le Saint-Esprit a inspiré ces versets parce qu'il les a pensés très utiles pour nous de considérer ces accomplissements de la point de vue humain, afin que nous puissions après le contraster avec la réalité divine. Donc regardez un peu du point de vue humain ces réussites de Paul. On va dire d'abord que Paul était, il nous témoigne, hein, il était une réussite par rapport à son identité. Si quelqu'un peut dire « je suis quelqu'un », c'est Paul qui a pu le dire. En ce qui concerne, il y a 4 choses ici, en ce qui concerne l'alliance de Dieu, il dit verset 5, j'étais circoncis le 8e jour. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Ismaël a été circoncis à 13 ans. Les prosélytes étaient circoncis à l'âge adulte. Mais seuls ceux de l'Alliance étaient circoncis le 8e jour. Le texte dit plus littéralement, quant à l'égard de la circoncision, celui du 8e jour. C'est-à-dire, je ne suis pas prosélyte. Hein? Il a suivi tous les rituels depuis sa naissance, comme ont fait d'ailleurs ses parents. Il avait la marque de l'Alliance. Regardez deuxièmement, en ce qui concerne sa nation, il est de la race d'Israël. Donc Ismaël, qui était fils d'Abraham, n'était pas de la race d'Israël. Ésaü était fils d'Abraham aussi, et fils d'Isaac même, mais il n'était pas de la race d'Israël. Qui était Israël? Israël, c'est le nom pour Jacob, n'est-ce pas? Jacob à qui ses promesses ont été données. Ça les distingue maintenant des Arabes et des autres. Quel avantage y a-t-il d'être juif? Mais Paul va nous dire en chapitre 3 de Romains, grande de toute manière, car c'est à eux que les ordonnances, les oracles de Dieu ont été donnés. C'est envers eux que Dieu a fait cette alliance. Ils ont reçu la révélation de Dieu. Tous les autres étaient dans l'obscurité, les païens vivaient dans l'obscurité. Ce n'était qu'eux qui connaissaient le seul vrai Dieu. Donc vraiment, c'est une gloire dans un sens pour eux. Imaginez, si vous avez vécu dans cette époque, Et certainement, c'est nos grands arrière-arrière-parents qui ont vécu, hein, quelque part pendant cette époque. Ils étaient, nos ancêtres étaient sans lumière. C'était qu'eux qui connaissaient le seul vrai Dieu. Et puis, en ce qui concerne son ascendance, troisièmement, toujours au verset 5, regardez-le, de la tribu de Benjamin. Je pensais que c'est peut-être comme quelqu'un qui peut dire, vous savez, je vous vois ici, moi je suis français de souche. Hein? Et non seulement ça, j'ai dans ma lignée d'ancêtres des noms illustres et importants. Vous voulez savoir qui je suis? Benjamin était l'un des deux fils préférés de Jacob, il est né de Rachel. Aujourd'hui encore, on parle du Benjamin de la famille, n'est-ce pas? Il était le seul fils qui est né dans la terre promise. Le premier roi venait de cette tribu. Paul lui-même, son nom Saul, venait de ce roi. Il était certainement fier de cela. Lors de la division du royaume, c'est seul Benjamin qui est resté fidèle à Juda, les fils de David. Mardoché, dans l'histoire d'Esther, était de cette tribu. À l'époque de Paul, déjà, beaucoup de Juifs ne pouvaient même pas dire de quelle tribu ils étaient. Hein, parce qu'il y avait la déportation, beaucoup sont revenus, ils étaient un peu dispersés partout. Mais Paul, il pouvait retracer son ascendant jusqu'à la tribu de Benjamin. Et c'est impressionnant. Et il est fier. Il est fier de cela. Mais pas seulement le fait d'impressionner les gens, mais le fait que c'est une des tribus choisies par Dieu. Et puis regardez, en ce qui concerne sa connaissance, son éducation, sa culture, il dit qu'il est hébreu né d'hébreu, ou un hébreu né d'hébreu. Il y avait à l'époque deux sortes de juifs, en gros. La majorité des juifs étaient hellénisés. Hellénisés venait du grec. C'est un terme qui désignait le fait qu'ils avaient, d'une certaine mesure, assimilé la langue et la culture grecque. Il y avait beaucoup de Grecs qui ne parlaient plus, en fait, l'hébreu et l'araméique, comme c'était parlé à Jérusalem. Vous vous rappelez, lors du Pentecôte, ils arrivent et ils parlent dans toutes ces... C'est des juifs, mais ils parlent plein de langues différentes. Et donc, Dieu doit leur donner ce don de pouvoir parler en d'autres langues pour qu'ils puissent être comprises. Mais Paul, il parlait l'araméen et même l'hébreu. Hein, ce n'était pas pour lui, il était un hébreu, né d'hébreu. Sa dévotion zélée à son ascendance et la culture juive était très répandue. Tout le monde le connaissait par rapport à Paul. Et je crois que c'est un peu cette caractéristique qui crée le pont entre ce qu'il était et ce qu'il a fait, car il est né d'hébreu, cela a affaire à son identité, mais continue lui-même dans la même tradition. Donc, c'est un succès personnel. Donc, on peut dire que Paul est une réussite par rapport à son identité, et Paul est une réussite par rapport à ses accomplissements personnels ou par rapport à ses actions. Non seulement est-il quelqu'un, mais il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez-le. La fin du verset 5. En ce qui concerne sa vie religieuse ici. Quant à la loi pharisien. Hein? Alors ça a peut-être un son très différent pour nous aujourd'hui, mais ça c'est l'ordre religieux le plus élite du judaïsme. Voici quelqu'un qui a gravi tous les échelons du milieu religieux pour arriver au sommet. Ils étaient peu nombreux par rapport à la nation, on estime peut-être 6 000 en tout, mais extrêmement dévoués, engagés. Et voici donc un homme important qui comprend la religion, qui connaît la loi, qui sait prier de longues prières à Dieu, qui a mémorisé la loi presque dans son entier, qui enseigne régulièrement, qui instruit les autres dans la loi. Quant à sa vie religieuse, c'est un succès. En ce qui concerne sa sincérité sans zèle, vous savez, certains disent, mais vous savez, ce qui compte, c'est d'être sincère. Ok, d'accord, si quelqu'un est sincère, c'était Paul. Regardez le verset 6. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Ce n'était pas un spectateur du dimanche matin. Ce gars est zélé, on va dire, à propos de la pureté de sa religion. C'est un djihadiste juif. Et je sais que de nos jours, être zélé pour sa religion est très mal vu. Mais Paul n'est pas de notre époque, il faut se souvenir. Il faut évaluer sa réussite humaine selon les critères de son jour. Pourquoi? Parce qu'on évalue les réussites de nos jours selon les critères de nos jours. On ne fait pas différemment, sauf que les critères ont changé. Paul est la vedette du judaïsme, du premier siècle en tout cas. Si la sincérité est tout ce qui compte, Paul était une réussite religieuse. Et puis enfin, en ce qui concerne la fidélité aux exigences de sa religion, regardez la fin du verset 6. Il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Vous voyez ça? Irréprochable. C'est une déclaration incroyable. Cela ne signifie pas qu'il était parfait, mais vous savez que la loi prévoyait des mesures à suivre quand on a péché. On pouvait offrir un sacrifice, etc. Et donc, à l'égard de son obéissance au règlement de la loi, il n'y avait tout simplement rien à lui reprocher. Il faisait tout ce qu'il fallait faire. Il se conformait parfaitement à toutes les lois dans le livre. Alors, notez-le bien, si quelqu'un peut se confier en la chair de ce qu'on est, de ce qu'on fait, Paul, la Bible dit, encore plus. Voilà. Et je pourrais terminer mon message là, et vous direz, c'est un culte raisonnable, parce qu'on termine à l'heure. Et je pourrais vous dire, vous savez, je vous laisse avec cette parole. suivez autant que possible l'exemple de Paul. Faites de votre mieux, mes amis. Même si vous ne pouvez pas arriver à son zèle, faites quand même de votre mieux. Suivez les 5 préceptes du bouddhisme. Appliquez-vous aux 5 piliers de l'islam. Pratiquez la morale confucienne. Cela ne peut que vous être utile. Et bien pourtant, notez le témoignage de Paul lui-même quant à ces choses. Regardez le verset 7, que vous le voyez de vos yeux. Verset 7. Mais ces choses qu'on vient d'énumérer, qui étaient pour moi des gains, des réussites, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Nous voyons que dans son témoignage, Paul nous dit qu'il considérait toutes ses réussites humaines comme n'ayant aucune valeur devant Dieu. Quand il dit « je les ai regardées », ça parle de sa perspective. Paul parle d'un changement radical dans la perspective de Paul ici, dans sa propre perspective. Toutes ces choses qui étaient considérées autrefois par lui, et non seulement par lui, mais par le monde juif dans son entier, comme étant des gains considérables. Il a changé les vies, et il les voyait désormais comme une perte. Il n'est pas neutre, mais il les voit comme une perte. Et pourquoi ? Il le dit lui-même. À cause de Christ. Qui a besoin de ces choses ? Qui peut se glorifier de ces choses quand on a rencontré le Seigneur ? Le Sauveur ? Ces choses n'ont plus de valeur parce que nous avons un Sauveur qui nous sauve parfaitement. Christ est suffisant. Donc ce qu'on pourrait ajouter à la fondation devient une perte en fait à l'édifice. Donc ça, mes amis, c'est un vrai chrétien. Une femme chrétienne est quelqu'un qui peut prendre tout ce qu'elle a acquis dans sa vie et elle peut le pointer du doigt et dire « je les considère comme sans valeur parce que j'ai un Sauveur en Jésus-Christ ». Ça, c'est une femme chrétienne. C'est un homme ou un enfant même qui peut prendre toutes ses actions, même les plus méritoires, on va dire entre guillemets, et dire ses actions sont sans valeur. Mais j'ai Christ. Et un rejet et il embrasse aussi quelque chose, il embrasse Jésus-Christ. Paul considérait la circoncision comme une perte, ce qui nous montre que le salut n'est pas par le rituel. Paul considérait son identité juive comme une perte, ce qui nous montre que le salut n'est pas par une certaine race, comme appartenant à une certaine race. Paul considérait son ascendance comme étant sans valeur, ce qui montre que le salut n'est pas par rang, parce que je suis quelque chose. Paul considérait ses traditions culturelles, son éducation, sa connaissance comme une perte, ce qui nous montre que le salut n'est pas dans la tradition ou dans le savoir. Paul considérait son zèle même comme inutile, ce qui est toujours aujourd'hui quand même accepté. Si on est zélé quand même dans un certain sens, si on est sincère, ben c'est ça qui compte. Non, il le considère comme sa sincérité comme une perte qui nous montre que le salut n'est pas par la sincérité. Paul considérait le fait qu'il a été trouvé innocent dans l'observation de la loi comme une perte, ce qui nous montre que le salut n'est pas par une rectitude légaliste, c'est-à-dire en gardant certaines lois. Comme application aux chrétiens, je lisais aujourd'hui le livre « Connaître Dieu », je lis avec J1, et il dit ceci dans le deuxième chapitre, James Packer, quand Paul dit qu'il considère les choses qu'il a perdues comme de la boue, il ne veut pas seulement dire qu'il ne leur accorde plus aucune valeur, mais il veut dire aussi qu'il ne vit plus en pensant constamment à ces choses. Quel être normalement constitué, passerait d'ailleurs son temps à rêver avec nostalgie de boue et d'ordure. C'est pourtant ce que font beaucoup d'entre nous, ce qui montre le peu de chemin parcouru dans la véritable connaissance de Dieu. Hein? Si c'est vraiment une perte, on ne va pas perdre son temps à accueillir ces choses et à étaler ces choses au monde. Non, on ne va pas rêver avec nostalgie de la boue, parce que nous avons Jésus-Christ. Alors avec quoi venez-vous à Christ? Pouvez-vous dire comme le chant que nous chantons parfois, « Tel que je suis, sans rien à moi, sauf pour ton sang versé pour moi. » Ça, c'est le témoignage d'un véritable chrétien.